Chapitre 2 Les dieux ennemis. Affalés sur le talus d'un fossé, ils échangeaient des propos amers. Les machines gisaient pêle-mêle de droite et de gauche, comme des objets encombrants dont on s'est débarrassé le plus vite possible et non sans quelque rancune. Une chaleur de fournaise rendait presque douloureux le contact de l'air. Le soleil implacable se moquait du mal que prenait un maigre peuplier pour leur fournir à tous quatre un peu d'ombre apaisante. Pâles et défaits, les yeux caves, la peau mouillée de sueur, ils n'avaient plus de force que pour s'accuser mutuellement de leur déconvenue. Les deux femmes surtout montraient une humeur féroce. Leurs figures luisaient et leurs cheveux pendaient en mèches mélancoliques. On eût dit qu'elles avaient marché jusqu'aux chevilles dans du plâtras en poudre. Une couche de poussière se tassait sur leurs jupes noires et des traces de doigts sales flétrissaient le piquet blanc de leurs vestons. Ah, tu peux te vanter d'avoir eu une fameuse idée avec ton voyage, jeta Madame d'Argol à son mari. Mon voyage, je crois qu'il te déplaisait pas. Tant que ça, non, tu ne déranges pas depuis le départ, parce que tous tes flirts t'ont lâché. T'en as fait une tête au train, oh, personne. Vexée, elle riposta. Parbleu, vous aviez doublé l'itinéraire. Je ne peux pas leur imposer, moi, 20 ou 30 lieues par jour.
20 ou 30 lieues, mais pas seulement 4 hier. Il s'agissait des ruines de Jumièges. Elles vous ont plu, cependant.
Là-dessus, on tomba mollement d'accord, nul ne voulant paraître insensible aux beautés de l'art. L'église de Caudebec et l'abbaye de Saint-Vendry furent elles aussi mises hors de cause.
« Mais ce qui m'exaspère, reprit Régine, c'est l'entêtement de Pascal, après le déjeuner, à continuer la route de Saint-Vendry au lieu de revenir par Caudebec. Ah, elle était propre, ta route. Des côtes et encore des côtes, en plein soleil, à pied, et une poussière.
Oui, c'est un pays très montagneux par ici, affirma Madeleine avec conviction.
Et puis, repartit Régine, pourquoi n'avoir pas pris le train à Yvetot, comme nous le demandions? Nous arrivions ce soir à Dieppe.
Mais puisqu'il n'y avait pas de train, répliqua Guillaume nerveusement, il aurait fallu l'attendre 2 heures, et puis 2 heures encore à Matheville. Autant aller le prendre à Cany. Ça va descendre tout le temps, nous n'avons qu'à patienter jusqu'à ce que le soleil soit moins dur.
Il flambait, le soleil, il flambait, de toutes ses forces, méchamment, comme s'il le faisait exprès. Il chauffait l'ombre, il déterrait les cailloux, il couvrait le sol d'une vapeur brûlante, que l'on sentait lourde, épaisse, comme de la matière en fusion.
« Oh, ce n'est plus tenable !» se lamenta Pascal. « Marchons, nous trouvons mieux une auberge où l'on sera plus à l'aise qu'ici. » Péniblement, ils se hissèrent sur leur machine. Ce fut un douloureux calvaire. En vérité, leur soleil parut un ennemi personnel qui flagellait leur dos et dévorait leur nuque. Ils avaient les tempes prises dans un étau de feu. Vainement courbaient-ils la tête. Le soleil était dans la poussière du chemin et dans l'herbe calcinée. La réverbération de la route blanche, de surcroît, leur torturait les yeux. Enfin, au sommet d'une côte où ils se traînèrent à tapis, les hommes poussant les montures, les femmes exténuées et hargneuses, ils avisèrent une auberge d'aspect convenable. Quelques minutes plus tard, Madeleine et Régine, épongées, frictionnées, la taille libre, reposaient sur un lit, tandis qu'au fond d'une salle fraîche, leur mari buvait une bouteille de cidre. Vers 6 heures, le soleil désarma et l'espace délivré s'emplit d'un doux apaisement. Les dames alors apparurent.
« Nous voilà prêtes !»
Elles avaient des visages presque souriants, se sachant propres, les cheveux en ordre, la peau ornée de poudre de riz et la mine correcte. Les machines étaient nettoyées. Tout le monde se sentait dispos et l'on partit allègrement. Cependant, comme le souvenir des mots échangés laissait dans chaque ménage un peu de rancune, les deux couples se disloquèrent. Tandis que Darjols et Régine Fauvière filaient en avant, Pascal et Madeleine, plus placides, cheminaient côte à côte. Il y eut une longue descente au milieu d'un bois gracieux dont on apercevait, par des échappées soudaines, un large vallon qui s'étalait entre les collines comme un lac de verdure. Ils y parvinrent et, de fait, ils eurent la sensation d'un bain qui les délaissa plus que le repos. Légère et indéfinie, la pente continuait au creux de la vallée luxuriante. Une source coulait, chargée de roseaux, sous la caresse des saules qui se penchent, et parmi l'ordonnance symétrique des peupliers pensifs. C'était délicieux de rouler ainsi, d'un mouvement égal et ininterrompu, selon la fantaisie des hauteurs dont on suit les contours. Oh, il n'avait plus ni fatigue ni regret. Le temps fuyait comme un songe. Il fuyait avec lui, et chacun de leurs efforts s'effectuait aussi aisément que s'égrènent les secondes dans la fuite du temps. Il regardait à peine, les yeux et l'esprit fermés, au charme des spectacles. Il ne savait pas percevoir la musique du silence, le chant des feuilles et l'harmonie des eaux. Mais tout cela pénétrait en eux par des voix nouvelles et les imprégnait d'un bien-être inconnu. « Eh, ça, c'est bon! Oh, comme c'est exquis !» répétaient Darjols et Madame Fauvière, se soulageant en épithète d'admiration. Pascal et Madeleine ne laissaient tomber que de rares paroles. Et chaque mot, tous les quatre le prononçaient d'une voix discrète, comme on dit des choses quelconques, derrière lesquelles il y a des pensées, des sensations que l'on devine bien plus profondes et bien plus importantes. À Cany, on se retrouva. « Ah, voici la station !» annonça Guillaume. « Nous arrêtons-nous ?»« Non, non !» s'écrièrent les deux femmes. « Allons toujours jusqu'à la mer !» Mais vous savez que Velette est à peu près à 10 kilomètres. Tant mieux, tant mieux. Et on se remit en route. Des nuages roses voguaient au ciel. Les collines bleues s'enfonçaient dans l'horizon. La nuit se mêlait au jour et l'ombre envahissante imprégnait l'espace de mystère et de mélancolie. Oh, ces bouffées d'air vif qui viennent au-devant de nous, murmura Pascal. « On dirait des messagers que la mer envoie pour nous souhaiter la bienvenue. » La silhouette des choses s'effaçait. Ils allaient parmi les fantômes des arbres et des haies confuses. Plus ils avançaient, plus ils leur semblaient recevoir des trésors d'énergie et de souplesse. Ils avaient l'impression qu'ils pourraient aller toujours, comme l'eau qui coulait auprès d'eux sans lassitude, toujours alerte, toujours joyeuse, toujours renouvelée. La nuit les enveloppa. Les deux couples se perdirent de vue. Le souper les réunit dans une salle d'hôtel. Ils furent tour à tour exubérants et silencieux, enthousiastes et graves. Ils badinaient, disaient des choses qu'ils n'avaient jamais dites. Ils étaient pleins de cordialité, de bonhomie, confiants en eux-mêmes, dispos et jeunes. Enfin, ils se turent. Les heures écoulées leur laissaient de la béatitude et de l'étonnement. Elles leur paraissaient étranges, ces heures. Rien dans leur passé ne s'y pouvait comparer. C'était comme si, en cette journée de contraste violent, leur vie avait subi le même phénomène qu'eux-mêmes, et que, lasse, harassée, brûlante, morose, elle fut devenue soudain fraîche, facile et harmonieuse. Par quel miracle? Oh, ils ne se le demandaient point, mais ils avaient bien la perception vague d'un miracle. Dans le trouble grisant de leurs rêves, Il se faisait l'effet d'être fabuleux qui touchait la baguette d'une fée. Et l'impression persistante de la vitesse aidait encore à leur imposer le souvenir de quelque chose qui s'était accompli en une seconde comme un prodige inexplicable. Ils ne songeaient à rien de tout cela d'une façon précise. Seulement, ils tiraient de leur promenade, de leur enthousiasme, de leur langueur actuelle, une telle satisfaction qu'ils n'étaient point sans quelque regret à l'idée d'en avoir fini. C'est pour cette raison, assurément, pour d'autres aussi, plus indistinctes, qu'il n'y eut pas d'exclamation quand l'un d'eux lança d'un ton négligent. « Eh, si l'on allait comme ça, très loin au hasard, du côté de la Bretagne ?» Non, cette proposition ne les bouleversa point. Ils l'acceptèrent tout naturellement. Pourtant, ils se regardèrent avec une certaine surprise, chacun en proie à l'incompréhension, se demandant pourquoi il acquiesçait à un tel projet, et bien plus, pourquoi les trois autres ne jetaient pas les hauts cris. Que s'était-il donc passé de si anormal? Les moindres détails furent vite réglés. Les dames se procureraient des costumes plus pratiques, culottes et vestons de laine grise ou beige. Une malle abondamment pourvue précéderait les voyageurs de ville en ville. Et ils s'en iraient tout doucement par petites étapes, se reposant aux heures trop chaudes et flânant sur les grandes routes selon l'ordre de leurs caprices.